Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 27 septembre 2020 que Dieu a fait, le 9 Tishrei, veille de Yom Kippour. Comme nous le savons, jour du grand tikkun, de la grande réparation, de la grande kapara, jour où le peuple d'Israël a reçu les secondes tables de la loi de la main de Moshe, et jour qui annonce le Yom Kippour des nations, c'est-à-dire véritablement la tshuva, la réparation finale, et la capacité qu'auront les nations repenties à comprendre, à partir d'Israël, et à partir d'Israël seulement, la parole divine, chacune selon sa fonction et chacune selon le niveau de son âme collective. Je voudrais revenir un peu sur ce que nous avons dit vendredi dernier, il y a quelques jours, concernant le combat secret de Tzipora. Tzipora a donc, au jour le jour, combattu les forces du mal, combattu les forces d'obscurité. Et pour cela, HaKadosh Baruch Hu l'a placé dans un environnement qui était un environnement de combat. Un environnement dominé particulièrement par des forces d'impureté. Et son travail, si on peut s'exprimer ainsi, était de rendre l'impur pur. Tzipora était donc entouré de forces qui étaient en fait implacables. Et sans en avoir vraiment conscience, elle en souffrait énormément. Par exemple, HaKadosh Baruch Hu va lui mettre autour d'elle des proches, des frères, des sœurs, qui vont, elles, eux, représenter le monde de l'adversité, représenter le monde de la négation de l'intervention du Dieu de l'histoire. Et à chaque fois qu'elle voudra, qu'elle devra, si vous voulez, transmuter, c'est-à-dire changer, entre guillemets, de fonction, recevoir un nouveau nom, eh bien, les forces vont se déchaîner contre elle. Contre elle et contre son mari. Par exemple, au moment où elle comprendra l'importance d'avoir fait son alia, ou le moment où elle comprendra que il y avait en fait une dynamique de l'histoire, et que cette dynamique de l'histoire allait lui être révélée progressivement, eh bien, sa famille, ses frères, par exemple, évidemment c'est un exemple, ses sœurs vont se déchaîner pour fixer sa fonction définitivement, de manière à ce qu'il n'y a pas de dynamique, de manière à ce qu'il n'y a pas de transmutation. Par exemple, si Tzipora est une Américaine, eh bien, sa sœur, son frère vont lui dire, toi, tu es une Américaine, tu es avec nous, tu n'as pas du tout à faire cette fonction, à faire cette alia, toi tu es avec nous, tu es à New York, tu es ou à Paris, et tu vas tout simplement réaliser ta fonction de Française, non pas en Israël, mais en France ou en Amérique, par exemple. Et donc le combat sera un combat intense, secret, et à chaque fois qu'elle passera d'un monde à l'autre, eh bien, les temps de l'histoire seront, si vous voulez, marqués par ce combat intense qui était dans son extériorité, sa famille, ses amis, etc., et son intériorité. Elle devait intégrer ce combat, même, encore une fois, inconsciemment, et elle devait avancer. Par exemple, elle va avoir autour d'elle les forces définitives de la fin des temps de l'histoire, de la Perse, de l'Iran, qui vont tout faire pour empêcher Tzipora de se, disons, de se conformer à la parole de Dieu. Elles vont tout empêcher, c'est-à-dire qu'au jour le jour, elle sera attaquée par des forces dites perses, qui vont particulièrement la gêner, la bouleverser. Et au jour le jour, elle sera éperdument touchée par ce combat, parce que évidemment, elle donne son cœur, elle donne son amitié, elle donne sa familiarité, toujours avec évidemment les limites qu'elle s'impose, et en retour, elle aura en fait la défiance, un combat sans merci, des forces qui veulent tout simplement la battre et empêcher le couple, elle et Moshe, de se réaliser pleinement. Alors, cette réalisation va prendre, si vous voulez, plusieurs formes, dont une fondamentale, c'est d'intégrer toujours, même inconsciemment, le côté féminin de Tzipora au côté masculin de Moshe. Et lorsque le côté masculin, entre guillemets, de Tzipora sera intégré au côté féminin de Moshe, alors il y aura, si vous voulez, la réalisation de Moshe. Et lorsque sera le contraire, il y aura la réalisation de Tzipora. C'est-à-dire que former le un, c'est tout simplement intégrer la notion de zivoug, la notion de couple parfait, de manière à ce que le couple initial d'Adam et Ève puisse être rétabli parfaitement, comme il était rétabli avant, entre guillemets, bien sûr, la faute. Avant la faute, le vav, c'est-à-dire la relation entre le ciel et la terre, était une relation claire, établie. Le ciel et la terre étaient reliés, unis intrinsèquement, unis fondamentalement. L'homme, dans son côté masculin, recevait, et la femme, dans son côté féminin, accomplissait. Et c'était évidemment absolument formidable, parce que l'harmonie, la paix, la symbiose régnait partout. Il y a donc une sorte de temps de l'histoire qu'on appelle Rosh Hashana, et là je vais me référer au livre absolument très très bon livre de David Saada, Albin Michel, paru dans les éditions Albin Michel de Point Intérieur. Je l'ai souvent cité, ce livre, à l'analyse de la paracha à Azinu, aux pages 565 à 569 à peu près, eh bien, le monsieur David Saada, en citant Rashi, en citant le Ramban, va expliquer en fait que, au niveau kabbaliste, le Ramban avait bien précisé que le temps du ciel et le temps de la terre ont été séparés, particulièrement, n'est-ce pas, par cette Nesira, c'est-à-dire par cette séparation, le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, il y a eu séparation entre les forces dites féminines, des forces dites masculines, entre le ciel et la terre. Le ciel étant d'attributs, si vous voulez, masculins, la terre étant d'attributs féminins. Et donc, les 10 jours de pénitence sont des jours de tshuva où véritablement on va essayer d'accomplir le tikkun. Le tikkun, c'est-à-dire que en fin de compte, ces deux êtres masculins et féminins qui étaient un dans l'autre, intégrés un dans l'autre, ils faisaient l'unité, ont été séparés dos à dos, n'est-ce pas, puis séparés à Yom Kippour, l'un en face de l'autre. À l'image, à l'instar des chérubins, qui se trouvaient évidemment dans le Mikdash. Eh bien, ce couple qui va en fait être face à face à Yom Kippour, n'est-ce pas, va se rapprocher de plus en plus pour former, si vous voulez, des enfants, c'est-à-dire la pluie, c'est-à-dire au niveau universel, la rosée, etc. Et cette pluie, cette rosée, qui est la véritable bénédiction, en termes de secret, évidemment, on le sait, c'est la Torah. Et la Torah de la délivrance, qui va surgir en toute surprise, un shir hadash, comme on dit en hébreu, un chant nouveau va apparaître, va se faire lorsque les deux êtres vont retrouver leur propre unité. Lorsque Tzipora et Moshe vont se retrouver fondamentalement, l'universel étant dans Tzipora, son côté évidemment masculin va recevoir la parole de Dieu, elle va retransmettre cela à son mari, et son mari va retransmettre cela pour la réalisation donc par ses attributs féminins. Et ce qui est fondamental, absolument fondamental de comprendre, c'est que la fête de Soukhot, avec évidemment la Souka, qui correspond à une sorte de mariage, de dénuptial, disent les maîtres du Sod, eh bien, dans la Souka, l'union sera absolument parfaite entre Dieu, Israël, d'un côté, Dieu, l'humanité, de l'autre, à condition, bien entendu, que l'humanité repentie puisse recevoir la parole à partir de Jérusalem. Alors, nous sommes donc à la veille de phénomènes grandioses, de phénomènes certes déstructurants, certes surprenants, très très surprenants, mais absolument grandioses. La fête de Simchat Torah va être une fête, si vous voulez, où Israël va retrouver son Dieu, mais aussi, à la fin des temps de l'histoire, où l'humanité repentie, réparée, va retrouver son Dieu. Et cette humanité réparée qui va retrouver son Dieu, à partir d'Israël, sera véritablement enfin en symbiose, enfin reposer et surtout en toute lumière, chacun, chacune de ces nations selon le niveau de sa neshama collective. Merci.